France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée.
From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote.
Bonjour. Au micro, Christophe Biteau, vice-président de la Fédération nationale de la libre-pensée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Stamboul, porte-parole de l'Union juive française pour la paix, auteur des ouvrages « Contre l'antisémitisme et pour le droit au peuple palestinien » paru aux éditions Sileps et « Du projet sioniste au génocide » paru aux éditions Acrassi. Et il me semble qu'il y en a d'autres à venir, Pierre.
Il y en a un qui vient de sortir et qui est un livre collectif à 6 voix, dont une voix qui vient de Gaza, et qui s'appelle « Gaza, mort, vie, espoir » aux éditions Rive-Neuve.
Eh bien, je lui souhaite le même succès que les précédents. Pierre Stamboul, vous êtes porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Je vous ai déjà invité dans cette émission, mais pouvez-vous nous rappeler qui vous êtes et qu'est-ce que l'UJFP ?
Donc moi, je suis professeur de mathématiques à la retraite. Je viens d'une famille juive venue de Bessarabie, aujourd'hui partagée entre Moldavie et Ukraine. Parents résistants, famille maternelle exterminée, père membre du groupe Manoukian et déporté à Buchenwald. L'Union juive française pour la paix, dont je suis un des porte-paroles, existe depuis 1994. Au début, sur l'idée « pas de crime en notre nom », mais la réalité de la guerre que mène Israël contre le peuple palestinien nous a fait nous engager beaucoup plus. Nous sommes une association juive antisioniste, antisioniste parce que juif, parce que le sionisme n'est pas seulement un crime contre la Palestine, mais une injure à notre mémoire, à notre histoire, à notre identité.
J'y reviendrai tout à l'heure en effet.
Nous pensons que nous sommes un petit peu les héritiers d'une période où la majorité des juifs pensaient que leur émancipation comme minorité opprimée, passée par l'émancipation de l'humanité, c'est le sens de notre engagement. Nous sommes aussi une association antiraciste. Nous combattons tous les racismes, contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Roms, contre les musulmans, contre les Juifs.
C'est une présentation tout à fait précise. La prise d'otage du Hamas et la répression, et le mot est faible, qui en a découlé d'Israël, date maintenant de plus d'un an. Le 7 octobre 2023, le temps passe très vite. Quelle situation, quel bilan aujourd'hui ?
Je crois qu'on ne peut pas commencer par le 7 octobre. Il faut comprendre que la Palestine est un peuple de réfugiés, que les Palestiniens ont été expulsés de façon préméditée de leur pays il y a maintenant plus de 75 ans, que Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et d'autres territoires sont occupés maintenant depuis 1967, que à Gaza, entre 75 et 80% de la population sont des réfugiés, bouclés par terre, par mer et par air, régulièrement bombardés, et y compris quand ils ont manifesté de façon totalement pacifique avec les marches du retour. Donc, que ça explose, c'était évident que ça allait exploser. Et je reprendrai ce que disait Nelson Mandela, ce n'est pas l'opprimé qui choisit la forme de résistance, c'est l'oppresseur qui le lui impose. Donc ça a explosé le 7 octobre, mais ce qu'il faut surtout voir, c'est ce qui se passe depuis. Depuis, les Palestiniens ont été traités d'animaux humains, on a déclaré qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza, ils ont commencé à bombarder systématiquement, à pulvériser des immeubles. Il y a plus de journalistes qui ont été tués à Gaza que pendant les 2 dernières guerres mondiales, et la guerre de Yougoslavie et la guerre du Vietnam. On a attaqué les hôpitaux, il y a des centaines de soignants qui ont été tués. Il vient d'y en avoir 14 qu'on a retrouvés ligotés et tués à Rafah.
Des écoles donc, également.
Des écoles ont été pulvérisées, des millions de personnes ont été déplacées. L'occupant a organisé la famine, il théorise aujourd'hui le fait que Gaza doit être en situation de famine. Il a coupé l'arrivée de la nourriture, de l'eau, de l'électricité. Donc, en tant que juif, je peux dire, parce que nous avons subi ça, ça s'appelle un génocide, ça s'appelle la destruction programmée d'un peuple. Toutes les associations humanitaires comme Amnesty International ou Human Rights Watch, ou B'Tselem, qui est une association israélienne, ou Al-Haq, qui est une association palestinienne, ont toutes dit qu'il y a un génocide. Ce qui se passe à Gaza nous concerne tous.
Vous avez écrit, je vous cite, « Le comportement de ceux qui prétendent parler au nom des Juifs est criminel. Ils profanent la mémoire du judaïsme, qu'il soit laïque ou religieux. » Fin de citation. Alors, que répondez-vous à ceux qui assimilent sionisme et antisémitisme, voire même critique du gouvernement Netanyahou, à de l'antisémitisme, et qui sont de plus en plus nombreux, et je dirais presque de plus en plus influents?
C'est pour nous, vu notre histoire, une obscénité complète, que Benjamin Netanyahou, qui est un criminel de guerre, dont le père était le secrétaire particulier de Jabotinsky. Jabotinsky, sa milice, le Bétard, s'entraînait en Italie fasciste à la fin des années 30. Les meilleurs amis des sionistes sont par exemple les chrétiens sionistes qui sont des antisémites avérés. Netanyahou est l'ami de Viktor Orban qui a fait une campagne électorale contre le juif, celui qui employait les mots George Soros. Qu'aujourd'hui, la direction israélienne et ceux qui la soutiennent nous accusent d'antisémitisme quand ils ont frayé sans arrêt avec les antisémites, c'est une obscénité. L'antisémitisme, il faut le comprendre une fois pour toutes, il a eu lieu en Europe, il a été commis par des Européens. Le génocide nazi, il a eu lieu en Europe, il a été commis par des Européens. Le fait que le monde entier se soit réjoui de faire payer un crime européen au peuple palestinien qui n'avait aucune responsabilité là-dedans est une obscénité. Le fait que des gens qui n'ont jamais combattu l'antisémitisme, qui ont été ses alliés, aujourd'hui nous traitent d'antisémites, c'est une obscénité. Je veux quand même rappeler qu'il y a plus de 120 ans, Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, était l'ami de tous les antisémites. Il est allé voir Plévé, l'organisateur des pogroms de Russie, et mes deux grands-mères sont des survivantes du pogrom de Kishinev, et les deux hommes sont tombés d'accord sur l'idée que les Juifs devaient quitter l'Europe. Le véritable couple, c'est évidemment sionisme et antisémitisme. L'antisionisme, le sionisme est une idéologie criminelle, c'est une idéologie qui a considéré que la solution à l'antisémitisme, c'était une conquête coloniale et c'était l'expulsion d'un peuple de son propre pays. Les sionistes ont imité les antisémites dans leur méthode inavouable.
Et aujourd'hui, Netanyahou invite en Israël
Jordan Bardella,
voilà, qui n'a pas vraiment, je dirais, un diplôme de philo-sémitisme, et puis toute l'extrême droite européenne, voire mondiale.
Absolument. Il faut écouter Marion Maréchal Le Pen, qui invitait, ce qui est une vraie obscénité, à cette conférence. Elle a dit « Nous avons un ennemi commun, les musulmans ». Et évidemment, c'est ça.
Quelque part, les racistes du RN ont changé de sémites, mais restent antisémites.
Voilà, si tant est que les sémites, ça existe.
Exactement. Alors, comment en est-on arrivé là, in fine ?
Ben nous, juifs antisionistes, nous connaissons un petit peu l'histoire. Et il y a, dans toute cette barbarie-là, au départ, une idéologie, qui est le sionisme. Alors, qui a commencé comment ? Qui a commencé à raconter une histoire abracadabrantesque, qu'il y a eu un grand royaume juif unifié autrefois, sauf que les archéologues et les historiens n'ont pas trouvé la trace de ça, qui disent que les juifs sont partis par centaines de milliers, par millions, à l'époque de Titus, et qu'ils reviennent dans leur pays grâce au sionisme, sauf que il n'y a pas de trace historique de ça, sauf que la plupart des juifs que vous pouvez connaître comme moi n'ont pas le type proche oriental. Nous ne sommes pas les descendants des Juliens de l'Antiquité, nous sommes les descendants de convertis de différentes périodes, de différentes régions, et les descendants des Juliens de l'Antiquité, ce sont les Palestiniens. Ils ont instrumentalisé la religion juive n'était pas une religion territorialiste, il était interdit de retourner sur cette terre avant l'arrivée du Messie. Ils ont instrumentalisé l'antisémitisme en allant voir les antisémites et en leur disant « votre intérêt est le nôtre et le même que les Juifs quittent l'Europe ». Le sionisme, c'est un colonialisme de remplacement qui, dès le 1900, a commencé à créer là-bas, avec la protection, à partir de 1920, du colonialisme anglais, un futur État et un État dont les Palestiniens, on disait les Arabes à l'époque, allaient être absents. Il n'y a plus aucun débat historique maintenant sur le fait que la Nakba, la catastrophe de 1948, était un nettoyage ethnique prémédité. Et il n'y a plus aucun débat maintenant sur le fait que la guerre de 1967, la conquête de la Cisjordanie et de Gaza, était une conquête préméditée. Il n'y a pas de sionisme de gauche. Le fameux sionisme de gauche, il est responsable de tous les crimes que je viens de donner. Et donc, très logiquement, cette idéologie-là, elle a abouti au fascisme. Et aujourd'hui, Israël est une société liée totalement à l'impérialisme mondial. C'est un morceau d'Europe qui est fiché là-bas, avec la volonté de terroriser les voisins et d'expulser la population locale, la population indigène, comme on a expulsé ou enfermé les Amérindiens et les Aborigènes. Ce qui arrive aujourd'hui à Gaza, et en partie aussi en Cisjordanie aujourd'hui, c'est le fruit de cette idéologie. Et nous, à l'Union juive française pour la paix, nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir une paix juste avec le maintien du sionisme ou avec le maintien d'un État ethnique.
Et d'une certaine manière, peut-être très rapidement, en une phrase, ceux qui voudraient, par la loi, interdire l'expression de l'antisionisme, sans doute, d'une certaine façon, donnent un certain crédit à l'antisémitisme.
Il est certain aujourd'hui que les déclarations de ceux qui soutiennent inconditionnellement Israël ont un rôle dans le développement de l'antisémitisme. Quand le grand rabbin Corsia ose dire que Israël doit finir le travail à Gaza, il est quand même l'autorité religieuse numéro un. Quand Arnaud Klarsfeld dit les musulmans sont nombreux à travailler sur les chantiers, ils vont avoir accès à des explosifs, ils vont venir tuer des juifs. Quand Monsieur Golnadel dit oui, il y a des colonies de peuplement, pas en Judée-Samarie où les juifs sont chez eux, mais dans le 9-3, il est certain que ces déclarations ne luttent pas contre l'antisémitisme, mais sont susceptibles de contribuer à des confusions majeures. Nous, à l'Union juive française pour la paix, nous avons toujours dit « juifs, sionistes et israéliens, ce n'est pas pareil ». Évidemment, nous sommes profondément juifs, très attachés à nos identités juives, et nous sommes antisionistes.
Et c'est important, je crois, que d'entendre une voix juive pour la paix. Ma dernière question va se porter vers l'avenir. J'espère, même si aujourd'hui c'est difficile, apporter un peu d'espoir, parce que vous avez écrit « Il n'y a qu'une solution, de la mer au Jourdain, l'égalité des droits ». Quelque part, et c'est la position de la libre-pensée également, la libre-pensée est pour un État laïque, où vivraient en paix juifs, palestiniens et chrétiens et non-croyants, quels qu'ils soient. Est-ce qu'une telle un tel projet est possible et comment ?
Aujourd'hui, il faut être clair, dans la situation actuelle, tous les projets sont impossibles. Le projet qui était soi-disant le projet des accords d'Oslo. Les accords d'Oslo ont été une gigantesque supercherie. Deux États, il n'était ni possible ni souhaitable. Pas possible parce que n'importe qui va en Cisjordanie voit que le territoire est mité et complètement envahi par les colonies, par le mur, qui a maintenant 900 000 colons. Pas souhaitable parce que profondément, la Palestine est un peuple de réfugiés. Il y a 10 millions d'héritiers de ceux qui ont été expulsés en 1948, et une solution politique qui ignore les réfugiés, c'est tout sauf une solution politique. Un État dont vous avez parlé, c'était une position qui existait à l'OLP jusqu'en 1988. C'était une position qui a eu un certain crédit chez les Juifs à l'époque du mandat britannique. Il y a un vote en 1944 où 45% se prononcent pour un État binational. Il n'y a plus vraiment les forces politiques aujourd'hui. La solution sioniste que M. Trump, avec sa Riviera et M. Netanyahou et tous les assassins autour de Ben Gvir et de Smotrich essaient de mettre en place, c'est une nouvelle Nakba, c'est une expulsion de masse. Je veux croire qu'elle est également utopique et qu'elle n'aura pas lieu. Je pense qu'elle n'aura pas lieu déjà pour une raison fondamentale, qui est que M. Trump demande à ses alliés de se suicider, l'Égypte et la Jordanie, et ils vont peut-être hésiter devant ça. Alors, tout ce qui nous reste, c'est le droit international. C'est pas l'ONU. Le droit international, ce sont des textes. Ce sont des textes qui disent que la Palestine a droit à la liberté, ça veut dire fin de l'occupation, fin de la colonisation, destruction du mur, libération des prisonniers, fin du blocus de Gaza. Ils ont droit à l'égalité des droits parce que voilà, l'égalité des droits, c'est absolument fondamental dans le droit international. Ça veut dire pour tout le monde, quelle que soit la religion, la non-religion, l'origine, l'identité, peu importe. Et ils ont droit à la justice. Le crime fondateur ayant été l'expulsion préméditée des Palestiniens, ça veut dire le retour des réfugiés palestiniens. Et il faudra aussi juger les criminels de guerre. C'est une utopie, certes, tout est utopique. Mais utopie pour utopie, je préfère m'accrocher à la question du droit, parce qu'on comprend bien aujourd'hui qu'avec des soudards meurtriers comme Trump et Netanyahou, le droit international va être attaqué de plein fouet. Et il faut défendre absolument le droit international. La Palestine est un laboratoire. Soutenir la Palestine, c'est pas un supplément d'âme, c'est empêcher que ce qui leur arrive nous arrive aussi. Donc on défend une cause universelle.
Je reviens à ma question, parce que on voit aujourd'hui véritablement un déferlement d'horreur. Est-ce qu'on va y parvenir ? Dans l'histoire, juifs et arabes ont vécu ensemble. Juifs,
absolument.
Arabes, chrétiens ont vécu ensemble. Est-ce qu'on peut espérer quand même s'en sortir ?
Il n'y a pas historiquement d'antagonisme entre juifs et arabes. Nous, quand nous sommes à Gaza en 2016, nous rencontrons les dirigeants politiques de tous les partis. En tant qu'Union juive française pour la paix, la réponse est unanime. Nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les juifs. Et donc oui, là, il n'y a pas de problème. Nous n'avons aucun problème avec les arabes et avec les musulmans, et c'est réciproque. Cette guerre-là n'est pas une guerre communautaire, raciale ou religieuse, c'est une guerre coloniale.
C'est une guerre coloniale et la religion est instrumentalisée en l'occurrence.
Absolument.
Comme bien souvent. L'émission arrive maintenant à sa fin. Il ne me reste plus qu'à remercier notre invité Pierre Stamboul. À la technique, Mineta Diawara. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. Et à la préparation, Claire Poinsignon. Je ne saurais quand même conclure cette émission sans vous inviter à acheter et lire les ouvrages de Pierre Stamboul que nous avons cité en début d'émission, ainsi que l'ouvrage collectif de la libre pensée, Judéicité, laïcité et libre pensée, qui aborde les mêmes thèmes et qui est paru aux éditions Théolib. Vous pouvez vous procurer tous ces ouvrages à notre librairie 10-12 rue des Fossés Saint-Jacques dans le 5e arrondissement ou via notre site internet fnlp.fr, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission le mois prochain qui traitera également du colonialisme, mais cette fois-ci de Sétif et des événements d'Algérie. Merci.